Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Valentin Hazan et Éric Morin.
Avec deux fables sommaires cette semaine, Macron et les barquettes, et la cigale, le corbeau et les poulets.
C'est ça la clé quoi. Pour militer, pour agir, il faut quand même que ce soit rigolo. Parce que si c'est chiant, personne n'a envie d'y aller quoi. Il faut que ce soit joyeux. Et eux, ils sont joyeux quoi.
On a vu leur sourire sur leur visage à venir bosser. Et voilà, on a dit, il faut qu'on fasse ça nous aussi. On n'a pas le choix quoi.
Comment elle va s'appeler cette scope alors?
Écoplascope.
Mais j'allais dire, pour être rapide, le combat doit continuer.
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent?
Cocorico, eh ben oui, cocorico. Quoi? Par les temps qui courent, ça vous paraît déplacé de clamer comme ça haut et fort notre fierté nationale? Bon, c'est vrai qu'à première vue, entre la fermeture programmée du site d'Alstom à Belfort, les thèmes de la campagne des primaires qui flirtent ouvertement avec ceux de l'extrême droite, et la rentrée sociale qui a débuté sous les coups de matraque et les jets de grenades, on se demande bien de quoi il faudrait se réjouir. Mais c'est parce que la bonne nouvelle n'a pas été très largement diffusée. Et pourtant, comme le révèle le journal Politis, un rapport d'Anderson Global Investors, paru à la mi-août, nous informe qu'en France, les actionnaires se sont considérablement enrichi au cours du deuxième trimestre de l'année, puisque, écoutez bien, les dividendes y ont augmenté de 11,2% contre 4% en moyenne dans le reste de l'Europe. Pas mal, hein ? La France arrive donc en deuxième position au palmarès des plus gros gains pour les actionnaires, juste derrière les Pays-Bas. Et avec la loi travail qui est enfin passée, la France peut même espérer rafler la première place, qui sait ? Alors elle est pas belle la vie ? De quoi il se plaint Pierre Gattaz ? Bon, les rabat-joie diront que tout cela a bien un coût social, que les salaires, eux, n'augmentent pas, qu'il faut souvent plusieurs boulots pour boucler les fins de mois, que les licenciements boursiers détruisent des régions entières, leur économie et leur savoir-faire. Mais comme dit l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et pour que les actionnaires soient contents, il faut bien pouvoir mettre quelques ouvriers sur le carreau. Et c'est comme ça qu'Ecopla a mis la clé sous la porte. Ecopla, vous savez, on vous en a parlé la semaine dernière à la fête de l'UMA. La dernière entreprise de barquettes à Lu dans la vallée du Grésivaudan. Un ancien fleuron industriel, tour à tour pillé par une banque, un fonds de pension et un actionnaire. Et que les salariés essaient aujourd'hui de reprendre en scope. Parce que eux aussi, ils aimeraient bien être du côté de ceux qui gagnent. Alors avec Antoine Chao, ils sont allés voir du côté du ministère de l'économie et aussi de chez Macron. Parce que le bonheur, comme les richesses, ça se partage, dit un autre adage. Et puis avec Guy Vantil, on va vous raconter une autre fable de la France parano cette fois, autour du dernier film d'Olivier Hazan, Le Corbeau, la cigale et les poulets. L'histoire invraisemblable d'une farce juridique qui aura mobilisé toutes les polices de France, inquiété jusqu'à l'Élysée et fait débouler l'élite de la police antiterroriste dans un petit village du sud-ouest. Comme un bruit qui court, Macron et les barquettes et La cigale, le corbeau et les poulets, deux fables de la France d'aujourd'hui. C'est jusqu'à 17h et c'est sur France Inter.
Antoine Chao, Charlotte Berry,
Guy Vantil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Monsieur Macron, donnez-nous des réponses.
Ecopla,
mesdames et messieurs, mon message est simple. Ne vous demandez plus ce que votre pays peut faire pour vous. Mais demandez-vous à chaque instant ce que vous pouvez faire pour notre économie.
Il n'a pas fait son boulot.
Il n'a rien fait.
Monsieur Macron,
il a fait crever l'entreprise. C'est de sa faute. Des courriers, il en a eu 30 sur son bureau. Il n'a jamais répondu. Donc il a fait crever cette entreprise parce qu'il ne s'est pas intéressé.
Donnez-nous des réponses.
Donc il faut arrêter la négligence. La négligence est trop tard.
Macron, voilà. Allez, allez.
L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste.
Faites du porte-à-porte, monsieur Macron, on est là !
Vivre, Ecopla, vivre, Ecopla, vivre, Ecopla, vivre.
C'est une belle journée de mobilisation qui commence pour Gaëtan, Karine, Daniel, Patrick, Christophe, Bernard et Pascal. Ils ont pris un bus Macron depuis Grenoble. C'est pratique pour les chômeurs, c'est moins cher. Et justement, ils sont au chômage. Ils sont une délégation des ex-salariés de l'entreprise Ecopla. Et ils ont bien l'intention de la reprendre en scope, leur boîte, et de le faire savoir et de se faire entendre à Paris en haut lieu. Ils ont aussi profité de leur virée à la capitale pour aller à la fête de l'UMA samedi et dimanche dernier. Et on les avait reçus avec François Ruffin du journal Fakir et du film Merci Patron qui les accompagnait pour l'occasion. Lundi 12 septembre, 9h, devant le ministère de l'économie. Première étape. Avec nous, venez les secourir. Secourir les employés des Ecopla et secouer donc le ministère et ceux qui n'ont rien fait jusqu'à présent pour qu'Ecopla puisse survivre en scope.
Alors, merci d'être là.
Alors vous êtes un employé, ex-salarié d'Ecopla ?
Ex-salarié d'Ecopla, oui. Voilà.
Vous avez les t-shirts Notre ami et l'emploi, Ecopla, Scope vivra.
Ouais. Ben, on se bat depuis le mois de mars pour essayer de récupérer notre entreprise. Donc ben, les portes se ferment et puis on est là, on essaie de les ouvrir, trouver une brèche pour essayer de récupérer notre entreprise. Gaëtan Zapia, 28 ans d'ancienneté à Ecopla. J'ai commencé comme opérateur sur presse et puis j'ai fini au bureau d'études en passant par l'outillage et metteur au point. Voilà. Karine Salin aussi qui est là. Elle peut vous raconter un peu l'histoire d'Ecopla.
Alors Karine Salin, Ecopla, c'est quoi au départ ?
L'usine existe depuis 1960 et c'est Aimé Paquet, le maire de Saint-Vincent-de-Mercuze, qui avait construit cet atelier pour éviter à ses habitants d'avoir à traverser la vallée pendant l'hiver. Donc c'est vraiment l'usine de Saint-Vincent, c'est historique. C'est une usine familiale parce qu'il y a beaucoup de familles de la vallée, de Saint-Vincent et des environs qui y ont travaillé. Et c'est une ambiance... Puis maintenant, le collectif, c'est une famille.
Il y a quelques mois, Ecopla était encore le leader français de la fabrication de barquettes en aluminium.
Cette usine était la seule en France à en produire.
Tout l'enjeu, c'est de savoir si Ecopla sera placé en redressement ou en liquidation judiciaire. Et les 77 salariés sont mobilisés pour reprendre leur entreprise en scope, ce qui serait pour eux la meilleure manière d'éviter que leur entreprise ne tombe entre les mains d'un grand groupe.
Tous les espoirs se sont envolés pour les salariés d'Ecopla à Saint-Vincent-de-Mercuze.
En première instance, le tribunal de commerce a tranché en faveur d'un chèque d'1,5 million d'euros promis par le groupe italien Cookie.
Il prévoit juste de racheter les machines et ne propose aucune reprise des salariés sur le site.
Alors ce matin, après la fête de l'UMA, donc vous étiez à la fête de l'UMA samedi et dimanche,
oui.
Vous avez décidé de venir interpeller les politiques, c'est ça ?
Oui, exactement. Bon, alors la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'enfin on est entendu, puisqu'on va être reçu par Madame Pinville, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, là ce matin. On espère qu'autour de la table, il y aura l'économie et la justice, parce que nous, il n'y a pas de raison qu'on se retrouve à Pôle emploi et que ce soit nous qui payons la dette. Nous, ça fait 2 ans, voire 3 ans, qu'on alerte le tribunal de commerce, qu'on alerte tout le monde. Et il n'y a personne qui nous répond. On veut créer des emplois, on ne veut pas pointer à Pôle emploi. Il faut que les personnes concernées payent la dette à bénéficier.
Alors c'est quoi la dette ?
Ben, la dette, c'est le fonds de garantie qui a payé nos salaires de mars à avril. Et le tribunal des commerces dit, ben, voilà, j'ai un créancier principal. J'ai 1,5 million à rembourser. Ben voilà, il y a un concurrent italien qui propose 1,5 million, tac. Et on ne réfléchit pas sur le fond du sujet qui est, ben depuis 2 ans, on a alerté tout le monde, on a dit attention, on va au pied du mur, on va à la liquidation, personne ne nous a écoutés. Et maintenant, c'est nous qui devons payer. Non, alors là, on refuse et on se battra jusqu'au bout.
Et vous, Karine, vous y travaillez depuis combien de temps à Ecopla ?
Alors j'y travaille depuis 9 ans en tant qu'assistante commerciale et puis j'aime cette entreprise, je veux pas la voir disparaître définitivement, c'est incompréhensible qu'on fasse disparaître un acteur de la filière aluminium comme ça du jour au lendemain. On est la seule entreprise à faire ce métier et on fabrique des barquettes aluminium qui sont 100% recyclables en plus. Donc
Et vous attendez quoi de cette rencontre alors ce matin ?
On veut du concret, on veut que les personnes réfléchissent sur le fond de notre dossier. Enfin, ils ont des comptes à rendre, ces gens-là.
Et vous avez l'intention aussi d'aller voir Macron tout à l'heure ?
Oui, tout à fait.
Deuxième étape de cette journée de mobilisation.
Exactement. Monsieur Macron ne nous a jamais répondu. On lui a envoyé des courriers. Alors si, il nous a répondu le 29 août et il a démissionné le 30 août. Donc c'est une non-réponse, on va dire. Et la question qu'on va lui poser, c'est « Vous aviez tout pour nous sauver, vous ne l'avez pas fait, qu'allez-vous faire pour nous ?» Il veut être dans l'immersion, au réel, au contact des gens. Donc on vient le voir.
Voilà. À la télé, on entend dire « L'emploi, c'est notre bataille, il faut faire quelque chose pour l'emploi. » On demande que ça, et non, ben, on nous pousse plutôt vers la porte de Pôle emploi. Voilà. C'est pas l'emploi, c'est Pôle emploi.
Quelle est ma priorité ? Quel est mon cap ?
L'emploi.
C'est Pôle emploi.
La priorité, je dis, c'est l'emploi, mais mon cap.
Mon cap est clair.
C'est Pôle emploi.
C'est le monde de la finance. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de parti. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne.
L'État peut faire des choses. Mais en France, vous avez aussi une liberté d'entreprendre et un droit de propriété. Et vous avez parfois des actionnaires cyniques et qu'on ne peut pas bloquer. Mais commencer à changer la politique, c'est arrêter d'avoir un comportement maternant et de mentir aux gens.
C'est pas l'emploi, c'est Pôle emploi.
Alors Christophe Chevalier, là vous avez un 4 quarts dans les mains, dans un emballage Ecopla en aluminium.
Exactement.
Vous allez l'offrir ici.
On va payer le petit déjeuner et on va y aller dans pas longtemps. Et voilà, c'est un produit qu'on fabrique chez nous et il nous suffit qu'on nous donne l'autorisation de récupérer cette entreprise et les financiers nous suivent, les clients nous suivent et on va récupérer ce qu'on sait faire.
Et Christophe Chevalier, ça fait longtemps que vous militez, vous ? Avant ce conflit, vous militiez déjà ?
Dans ma tête, j'ai toujours été un militant, mais jamais engagé. Et là, en 2012, quand on a vu que cette société qui était maltraitée, les salariés étaient maltraités, on s'est dit que c'est plus possible, quoi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a remonté le syndicat CGT en 2012, on a été élu au premier tour. On a mis un expert comptable tout de suite sur l'affaire et là on a vu qu'il y avait 6 millions d'euros qui étaient partis en trésorerie en Angleterre. Et ça fait 4 ans qu'on se bat pour essayer que cette trésorerie redescende en France. Quoi. C'est ça, c'est aussi ça, c'est qu'on a des commandes. Quoi. Le problème c'est qu'on a des commandes mais on n'a pas la matière première. Et c'est pour ça qu'on a...
Il vous manque la matière première là, pour pouvoir continuer. D'accord.
Juste la matière première, on rappuie sur le bouton et on redémarre les presses. Et l'usine redémarre, elle revient en fait.
Ecoplas COP vivra, point d'exclamation, qui est tendu devant le ministère de l'économie à Bercy. Et la délégation des ouvriers d'Ecoplas COP vivra, sont après la fête de l'UMA venus ici pour essayer d'interpeller le nouveau ministre de l'économie, monsieur Sapin.
À savoir nous vendre, puisque leur but c'est de nous descendre, à nous de savoir comment on va se défendre. Trop longtemps qu'on a peur, trop longtemps qu'on se tait, et maintenant c'est à leur tour de trembler.
Faites ah
ah ah, pas trop d'armes, plus y'a tout prendre dans la rue, plus ils savent qu'on est là. Faites vous, chassez ces voyous, pour qu'ils sachent qu'on est plein, pour qu'ils sachent qu'on est vous. Faites beau,
oh,
on veut du boulot, la France en haut à quelques kilos en faux. Faites voler,
allez.
Le but, c'est quand même qu'on reprenne les machines, mais on a évolué dans nos têtes, on a vu la société, voilà, on a fait de l'humain, on a vu plein de monde, les conjoints des copains qui viennent voir, ils me font, je croyais qu'il n'était pas capable de faire ça, quoi. Ils sont allés voir des mairies, ils ont écrit des lettres, même moi, je ne me sentais pas capable de faire ça. Parler à la télé, parler devant tout le monde comme ça, j'étais plutôt discret, timide, voilà. Donc c'est une aventure humaine et voilà, je souhaite à tout le monde de le faire, ce qu'on fait. mais que ça finisse bien, quoi. C'est que l'histoire ait une bonne fin. Et on est là pour ça, pour que l'histoire finisse bien.
Ecopla, vivra ! Ecopla, vivra !
François Ruffin, là c'est quand même un cas d'école de la vampirisation de l'industrie par les fonds de pension américains au départ.
Oui, bah d'abord c'est la suite de Péchiney. Il faut voir ça parce que Péchiney, c'était quand même un immense groupe. Et on a laissé démembrer ce groupe qui se portait quand même globalement bien. Et dans les petits bouts, eh ben, y a eu ça qui a été donné donc, à un fonds d'investissement qui s'appelle Audax, à une banque qui s'appelle Barclays, qui ont pillé la trésorerie, ça a été analysé par l'expert comptable. Et ensuite, comme ça valait un peu moins, c'était refilé à un actionnaire sino-australien que personne ne connaissait, ni Dave d'Adam. Mais à aucun moment, l'État s'est dit bah, « qu'est-ce qu'on est en train de faire avec qui était quand même le fleuron de l'industrie française, à savoir Péchiney et donc ces petites structures. Quoi. Et bon, bah, on a laissé se démembrer ça. Et il n'y a pas un moment où, malgré les alertes des salariés, parce que là, c'est pas comme si les salariés ils étaient restés les mains dans les poches en attendant. Ça fait 2 ans qu'ils disent « Attendez, on est en train de couler notre boîte, attendez, on est en train de couler notre boîte. » Et ben, comme on considère, moi je pense que c'est le reflet de l'idéologie dominante des élites françaises depuis 30 ans sur l'industrie. C'est-à-dire, là, on est en face de ce grand bâtiment à Bercy, bien construit, avec. Mais c'est que l'industrie, c'est has-been. Ce qu'il faut maintenant, c'est la new tech, c'est la nouvelle technologie. Il faut avoir.
Les services, quoi, aussi.
C'est ouais, ça, les services. Et puis, bon, voilà, c'est dans l'univers du virtuel que ça se passe. Mais l'industrie, soit on n'en a plus besoin, tout est automatisé, ou alors c'est normal que ça aille se passer très loin. Et il y a une espèce de psychologie collective qui s'est développée
comme
ça. Parce
que si ça pollue, c'est sale, quoi. Plus,
ouais, ça pollue, c'est sale. Mais de toute façon, ça pollue quand même quand
oui,
c'est produit ailleurs.
Oui, autant
ailleurs,
que ça mais, pollue ailleurs,
voilà.
Ouais, bien sûr.
Il y a toute une conjonction de facteurs qui fait que les élites françaises se sont mis à penser que. En gros, on n'avait plus besoin d'industrie en France. Que voilà, c'était plus nécessaire, que l'économie, ça passerait par autre chose. Bon, que donc tout ce qu'on pouvait faire, tu vois, c'est de parler un peu de revitalisation, ça veut dire mettre un petit truc logistique ou des petites assos qui vont venir sur les bâtiments. Et puis, on va donner de la formation aux salariés. Et naturellement, les gens qui ont été formés en mécanique, eh ben, ils vont se retrouver à faire informaticien ou alors les femmes qui travaillaient. Comme opératrice dans les structures, eh ben, elles vont faire auxiliaire de vie à domicile. Quoi. Et donc, il y a cette psychologie-là, dont le comportement de Macron dans ce dossier spécifiquement. Mais moi, j'aime bien étudier les grandes généralités par des cas d'école. Quoi. Eh ben, là, on a un cas d'école. On a un cas d'école de l'inertie, de la passivité des élites françaises face à la désindustrialisation. Et en l'occurrence, le ministère de l'économie a été complice sur cette boîte-là. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, on a Alstom. C'est pareil. L'expression politique industrielle est un terme qui est devenu interdit par l'Union européenne. Bah, s'il n'y avait pas eu de politique industrielle à un moment dans ce pays, il n'y aurait jamais notre fleuron, l'aéronautique en ce moment, qui est Airbus, par exemple. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut produire ? Comment on veut le produire ? Et où on veut le produire, quoi.
Comme par hasard, ça arrive maintenant, ironise un syndicaliste SNCF. On approche de la présidentielle et voilà qu'Alstom annonce qu'il ferme en France son usine emblématique de TGV. Pas une autre, où ça serait passé inaperçu. Sur place, les syndicats s'étonnent, eux, de la manière. Pas de consultation préalable, pas de comité d'entreprise, non. Les représentants du personnel de Belfort, simplement convoqués de façon informelle mercredi dernier. Et surprise, le président s'est saisi lui-même de ce dossier. Bonne occasion de critiquer le bilan des ministres de l'économie sortants.
Excusez-moi, Myriam ! On va rentrer, donc il y a tous les salariés d'Ecopla, donc Patrick, Daniel, Bernard, Gaëtan, Karine, moi, et il y a l'URSCOP avec représenté par Myriam qui vont rentrer. Les journalistes, a priori, ils ne peuvent pas passer la porte, on va passer au détecteur de métaux aussi, et ils veulent bien qu'on prenne des barquettes aussi, parce qu'il faut bien qu'on montre ce qu'on sait faire hein, aussi. Donc à moins 20, ils vont venir nous chercher, et puis on va y aller. J'ai demandé s'il y avait le ministère de la Justice, s'il y avait quelqu'un de l'industrie. Après, donc, on se donne rendez-vous à 14h à la Tour Montparnasse pour le quartier général de Macron. Voilà.
Dans l'inauguration du mouvement En Marche. Voilà. Voilà.
Merci, Jésus Baudin.
Christophe, une petite question. Pourquoi vous vouliez qu'il y ait le ministère de la Justice aussi qui vous reçoive ?
Il y ait un tour de table complet avec nous. Parce que là, à chaque fois qu'ils nous disent, ben voilà, c'est... Ils ne peuvent pas agir sur une décision de justice. Donc.
C'est pour ça que vous aimeriez qu'il y ait quand même un représentant du ministère de la Justice.
Exactement.
Ça va passer au détecteur de métaux, tu crois ?
Okay. Ouais, ça devrait. Avec un peu d'élan, il doit passer.
Alors, c'est des petits échantillons, hein, ce que vous produisez
voilà,
là-bas.
Ouais.
Voilà, alors toutes sortes de barquettes en aluminium. Les plats à tarte, les plats...
D'or, les coquilles aussi.
D'accord, ça, c'est les petits pâtés. Voilà. Les coquilles Saint-Jacques, mais oui. Mais voilà, la gastronomie française, quoi.
Exactement.
Ben voilà, la délégation y va.
Allez. On rentre dans le vif du sujet, là. Une photo là.
La mystère de l'économie et des finances. Liberté, égalité, fraternité, République française. Oui, je suis avec eux, ouais. J'ai ma carte de presse,
non,
c'est pas
non,
possible.
Non, la presse c'est dehors.
D'accord, la presse c'est dehors.
Voilà.
D'accord, bon. Ouais, tout à l'heure. Bon courage, hein, et vous nous racontez tout à l'heure. Sortons. Désolé, mais non. Ah.
On a réussi à rentrer dans Bercy, c'est super joli à l'intérieur. On a été reçu donc par la secrétaire d'État Martine Pinville. On a été reçu par quelqu'un de Monsieur Sirug, donc ministère de l'Industrie, de la Justice aussi, il y avait quelqu'un. Ils ont de la compassion pour nous parce qu'ils trouvent que c'est pas normal ce qui nous est arrivé. Ils vont nous aider dans le projet, dans la réussite du projet. Voilà, franchement, je vous dis qu'on ressort pas avec des. Pas comme on était venu, mais presque, quoi. On n'a pas vraiment de choses concrètes. Voilà. Donc, c'est toujours. Donc, Martine Pinville va faire une publication, comme ça, sur l'intérêt général de la société Ecopla pour le pays, l'intérêt général du pays.
Faut que ça.
Vous êtes déçu, c'est ça?
Ah, t'attends une décision de justice qui est l'ultime procédure dont on sait par avance que le tribunal de commerce, je veux dire, s'en fout de l'emploi. Ils vont simplement essayer de remettre l'argent aux débiteurs qui attendent leur pognon et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'avancée aujourd'hui.
On peut être déçu, mais après, je me faisais pas d'illusion à avoir une réponse immédiate. Mais j'allais dire, pour être rapide, le combat doit continuer.
Ah oui, non, mais ça,
il faut pas lâcher, quoi. Parce qu'il y a quand même une petite porte et il faut essayer de l'enfoncer, cette porte.
Vous êtes soutien, c'est ça? Vous êtes venu de là-bas,
et moi je comprends.
Vous êtes des élus locaux.
Ouais, ouais. Et moi je comprends qu'ils soient fatigués, usés, et que par moments ils perdent le moral, et c'est humain. Alors, pour que ça débloque demain, il faut que ça brasse. Il faut que ça brasse encore, davantage.
Bon, allez, on y va, on va à Montparnasse, je suis désolé que ça s'enchaîne comme ça. En tout cas, quand on avait prévu 9h-14h.
Allez, on plie la banderole devant le ministère de l'économie et des finances. La banderole Ecoplascop vivra. Les prochaines étapes de la journée de mobilisation, c'est aller à Montparnasse devant les locaux, les nouveaux locaux de campagne du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Alors, la banderole est pliée et c'est parti.
Ça va? Allez, à bloc. C'est la prochaine?
Oui, c'est la prochaine. On était à Edgar Quinet, donc après je vois Montparnasse.
Ministère de l'économie et des finances, communiqué de presse.
Les ex-salariés d'Ecopla accueillis à Bercy par Martine Pinville et le cabinet de Christophe Sirug.
Le sérieux du projet de reprise sous forme de société coopérative de production, élaboré par les ex-salariés, a été reconnu par l'ensemble des acteurs. Et la secrétaire d'État leur a rappelé qu'il s'agissait du point de vue de l'intérêt général, de la meilleure solution qui permet à la fois de maintenir des capacités industrielles en France, dans la filière aluminium, et de créer immédiatement une vingtaine d'emplois. Martine Pinville et le cabinet du ministre de l'Économie et des Finances et du secrétaire d'État à l'Industrie ont également assuré qu'ils étaient à l'entière disposition des ex-salariés pour les aider à bâtir ce projet en fonction
de ce que permet le cadre légal.
Alors Daniel, il y a Emmanuel Macron qui va vous recevoir là, dans ses nouveaux locaux hein, de son mouvement En Marche. Vous allez lui demander quoi? Vous allez lui dire quoi, Emmanuel Macron?
Ah, je n'ai pas espoir, je n'ai pas pensé pour voir quelque chose chez Macron parce qu'il n'a pas réagi bien avant. Donc maintenant, les gars de là, maintenant, ils ont vendu notre entreprise. On a crié avant, on a réclamé avant. Donc il fallait qu'ils réagissent bien avant. On a envoyé des lettres et ils n'ont jamais donné la réponse. Et donc, mais ça fait à peu près 2 ans depuis qu'on a réclamé notre usine. Donc voilà.
Oui, mais il est en campagne maintenant.
Il est en campagne maintenant, alors qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'arrive pas, il criait tout le temps, il disait que chômage, 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 chômage. Nous-mêmes, on travaille, on va lui montrer comment il peut diminuer le chômage. Il ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'il fera encore alors? On était dans notre boulot, on travaillait, on vivait très bien avec notre famille, alors maintenant on est dans la merde. Alors qu'est-ce qu'il fera encore de spécial? Voilà. Il faut arrêter. Moi je veux lui poser la question, qu'est-ce qu'il pense? Hein? Voilà, qu'est-ce qu'il pense? Maintenant, regarde, on est là, on ne fait rien. On devrait être au travail. Donc, il devrait réagir une minute seulement. Nous, on devrait être au boulot. 77 salariés, je vais lui demander qu'est-ce qu'il pense à nous.
Et en ce moment, les 77 salariés, comme vous, Daniel, vous êtes tous au chômage, c'est ça?
Voilà.
Et vous allez pointer au chômage tous les mois?
Oh là là, on a activé avec Pôle emploi. Avec des convocations qui n'arrêtent pas, qui n'ont pas de lendemain, tout ça. Donc maintenant, regarde, là, au chômage, tu commences à avoir 1 100 euros, 1 200 euros, tu vois. Donc, c'est pas normal. C'est pourquoi nous préférons de travailler, à retourner encore au boulot, au travail, pour cotiser aussi notre retraite. Et voilà. Et voilà.
Combien d'années vous avez passé à Ecopla?
Ouais, ça fait 5 ans.
5 ans.
Ouais. Voilà.
Et c'était bien, c'était une bonne boîte.
Oh là, une bonne boîte qui marchait très bien, sans problème. Imagine, cette boîte qui a commencé depuis des années 60, 1960. C'est pourquoi Macron, il devait taper sur la table une minute et débloquer la situation. Voilà, alors. Voilà. Mais il n'a rien fait.
Hein? 1 h 30.
Donc il faut arrêter la négligence, c'est trop tard.
Voilà. Donnez-nous des réponses, monsieur Macron! Faites du porte-à-porte, monsieur Macron, on est là! Ouvrez-nous la porte, monsieur Macron! On a marché jusqu'à vous, là!
Un jour nouveau.
Ecopla,
pas comme les autres, cela dit.
Ecopla,
mon Dieu, que c'est beau! Une journée comme ça, mon chapeau.
Donnez-nous des réponses!
Je te tuerai un jeudi. Parce que c'est écrit, comme programmé je suis, alors à jeudi.
Juste pour vous informer que M. Macron n'est pas sur place pour l'instant, mais nous serons disposés à recevoir une délégation, comme ça a été le cas ce matin à Bercy, des salariés d'Ecopla, les 7 personnes, d'après ce que j'ai compris, pour pouvoir s'entretenir avec vous, mais plutôt vers 16h.
Pour l'instant, t'occupe pas, vie. Sors donc voir tes amis. Je sais pas, moi, joue, pleure, ris. Ce sera rapide et indolore. Peut-être même que tu en demanderas encore. Je peux te garantir que tu ne souffriras pas à l'instant T de ton trépas. Une fois le boulot terminé, j'aurai plus qu'à attendre que vienne mon propre jeudi.
Il a pas fait son boulot. Ministère des Finances, hein. Des Finances, c'est ça. Hein.
Mais il n'a rien fait.
Macron.
Écoutez France Inter.
L'entretien aura duré 1 h 60. C'était bien le minimum pour Christophe Chevalier, délégué CGT, qui attend des explications depuis des mois.
Il a fait crever l'entreprise, c'est de sa faute. Des courriers, il en a eu 30 sur son bureau. Il n'a jamais répondu, donc il a fait crever cette entreprise parce qu'il ne s'est pas intéressé. Si ça serait intéressé, on aurait pu sauver l'entreprise déjà bien avant. Il ne l'a pas fait. Il faut qu'on s'explique à un moment donné.
Emmanuel Macron, qui aurait reconnu aujourd'hui son erreur de n'avoir pas suffisamment bougé sur ce dossier, il a même dit être prêt à le reconnaître publiquement, selon François Ruffin. Ce dernier espère bien lui arracher des regrets publics. Donc dès ce soir, à l'occasion d'une réunion de son mouvement En Marche, qui se tient en ce moment même dans un café parisien.
Il le reconnaît. Mais c'est pas tout de le reconnaître, donc ça veut dire qu'il faut continuer à l'interpeller.
Dom.
À gauche.
On descend avec elle.
Voilà, on quitte la tour Montparnasse et on va vers un bar rue Montmartre où Emmanuel Macron rencontre les jams, les jeunes avec Macron.
Rue Montmartre.
Voilà, nous y sommes.
On a évoqué tout à l'heure.
Pas de temps, mais comment
écoutez, j'ai expliqué.
Attends,
je lui parle de deux minutes et après, on s'est vu tout à l'heure. Je sais votre colère. Et donc si il y avait une erreur sur ce sujet, c'était l'erreur de ne pas avoir suffisamment mis collectivement.
Mais pourquoi vous n'avez pas soutenu le projet des Coplas? Pourquoi vous les avez laissés dans leur vallée du Grésivaudan tout seul?
On ne les a pas laissés, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne les a pas laissés seuls.
On n'a pas eu les réponses, monsieur Macron. 18 mois, les lettres sont là. On les a attendus devant les journalistes.
La sénatrice, ça fait 18 mois que vous n'avez pas répondu.
On s'est parlé tout à l'heure, on le sait. On le sait. Il y a un travail qui a été fait sur le terrain.
Vous auriez pu sauver les Coplas.
Sur le terrain.
Vous auriez pu.
Mais. Peut-être, et ça c'est mon erreur. Mais c'est... Non mais attendez, c'est trop facile, je vais aller au bout. Les services du ministère ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Le commissaire au redressement productif, les services sur le terrain du préfet, la direction générale des finances publiques, mon cabinet a été présent à plusieurs réunions.
Et donc, vous n'avez pas vu les salariés. Vous avez vu.
On se calme sur
le terrain. Ni votre cabinet,
vous le savez. On se calme, je vous...
On est calme.
Non mais, non, vous n'êtes pas calme, moi je suis calme. Je vous dis.
Ça fait 7 mois qu'on se bat, non, monsieur Macron. Ça fait 7 mois
qu'il n'y a pas de réponse.
Et donc,
alors ça énerve.
Ce qu'il s'est passé dans cette affaire, s'il y a eu une erreur de fait, c'est la mienne. Et ça n'a pas été celle des services. Et celle-là, je n'ai qu'à m'en excuser face à vous. C'est de ne pas avoir vu que le sujet pouvait basculer si vite en liquidation et qu'il aurait, par une mobilisation médiatique, mis une pression supplémentaire et peut-être aurait permis de mieux défendre les chances. Ça, c'est mon erreur.
On va continuer, monsieur Macron, on va continuer.
Ensuite, puisque vous continuez, moi je la reconnais, mon erreur. C'est celle-là. Et je ne suis pas heureux de ce qui s'est passé, je ne suis pas heureux de vous voir là. Je ne viens pas vous faire des promesses, je ne vous en ai jamais fait. Je sais que vous portez un projet. Et donc, comme j'ai commis une erreur, ma responsabilité, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc, en tant que responsable politique, je viendrai vous voir. Et je viendrai vous voir, monsieur Ruffin.
Il n'y a même pas eu une réponse politesse aux salariés.
Il y a une réponse. Non,
la réponse,
j'ai dit,
mais c'est le 29. La réponse a été le 29, monsieur Macron. Le 29, vous démissionnez.
Mais maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse, en tout cas, vous aider utilement à en dire.
Mais dis bloc.
Écopla, vivra, écopla, vivra, écopla, vivra.
Mesdames et messieurs, mon message est simple. Ne vous demandez pas, ne vous demandez plus ce que votre pays peut faire pour vous. Mais demandez-vous à chaque instant ce que vous pouvez faire pour notre économie.
L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste.
Là, il est complet, je paye le champagne, moi, en tout cas.
Ouais.
Emmanuel Macron est remonté dans sa voiture et a quitté la rue Montmartre. Bon, et c'était quand même pas mal cette journée-là.
C'est pas mal, oui.
un moment fort dans votre lutte là.
C'est un moment fort dans notre lutte. Mais on le voulait parce qu'il fallait médiatiser notre lutte, parce que c'était dans la vallée du Grésivaudan. Il y en a un dans le quart qui fait partie du collectif qui ne connaissait pas Paris. C'est la première fois qu'il vient à Paris. Voilà. Voilà, on n'a pas l'habitude de ce genre de situation, donc c'est voilà. Mais après, les gens, quand on voit les gens derrière qui vous félicitent, voilà, vous dites, voilà, c'est ce que je devais faire. Quoi.
Et ça a été difficile de convaincre vos collègues, d'imaginer une scope, de s'y engager.
On a travaillé dessus, on a fait des réunions, on a fait un déplacement à Alpine Aluminium qui est devenu une scope en juillet 2015. Voilà, on leur a posé des questions, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est dur, la vie de famille. Et quand on a vu leur sourire sur leur visage à venir bosser, voilà, on a dit, il faut qu'on fasse ça, nous aussi, on n'a pas le choix. Quoi.
Comment elle va s'appeler cette scope alors?
Ecopla scope.
Ecopla scope.
Ouais. On a mis toutes les idées, il y a eu Ecopla européen, machin, et on a plein de noms. On a décidé de voter Ecopla scope. Voilà.
On va repartir là bientôt là.
Bon, c'est bien d'interpeller et puis de monter à Paris, mais il faut qu'il en ressorte quelque chose.
Oui, c'est pas du spectacle, quoi.
Non, je veux dire, voilà,
mais
exactement.
C'est pas une soirée de gala.
Oui, voilà, c'est ça. On veut, voilà, maintenant il faut. Et puis il y a urgence, quoi. Le 5 octobre, c'est demain. Donc, on veut pas aller retourner en déception, quoi. Et puis là, on est sympa, on a le sens de l'humour, on prend le bus Macron. On est quand même sympa.
Ouais, c'est courageux, hein.
Ouais. Faut pas que les politiques s'attendent maintenant à ce qu'ils aient des gentils petits moutons en face d'eux. Là maintenant c'est fini, les gens ils en ont soupé, quoi. Des beaux discours et de la langue de bois et les promesses. Maintenant les gens, je crois qu'ils ont quelque part, ils ont ce sentiment qu'ils n'ont plus rien à perdre. Je crois qu'il y a un peu du foutage de gueule, quoi. Un manque de respect, donc du coup les gens ils sont aussi dans cet esprit là. On n'a plus rien à perdre, mais ils se foutent de notre gueule, donc on va leur dire ce qu'on pense.
C'est une aventure qui est géniale, après il faut qu'elle finisse bien. Il faut qu'elle finisse bien.
Grenoble terminus.
Oui, c'est long et fatigant de voyager en car Macron. Mais les amis d'Ecopla y sont remontés à bloc et seront de retour à Paris dès cette semaine pour faire la tournée des QG de campagne. En attendant le 5 octobre, la décision de la Cour d'appel de Grenoble qui pourrait sauver leur projet de SCOP, Société Coopérative et Participative, Ecopla SCOP, affaire à suivre. Et maintenant, avec Guy Ventil, une autre SCOP qui existe et marche bien, rencontrée la semaine dernière à la fête de l'UMA, les Mutins de Pangée, une coopérative audiovisuelle.
Oh, ma brique est court.
On voit Chamboultou, les Mutins de Pangée, le grand Chamboultou, nombreux DVD à gagner.
Oui.
Compétition permanente à toute heure, jouer pour gagner un DVD des Mutins. Grand tournoi samedi à 18h, donc après l'émission comme un bruit qui court.
C'est-à-dire que le truc, c'est que tu dégommes des boîtes de conserve. C'est la vieille tradition du Chamboultou, de la fête de l'humain.
Et on voit des boîtes de conserve avec François Hollande, Jean-Vincent Placé, Nicolas Sarkozy, Juncker, Emmanuel Macron, Bernard-Henri Lévy.
BHL, tiens, oui, tiens, étonnant. Et en fait, le but, c'est évidemment de faire tomber toutes les boîtes. Et ceux qui arrivent, on leur file plein de DVD, quoi.
Bah ouais, mais c'est à vous de jouer, là.
Silvio est au départ.
Et vous voulez dégommer qui, là, dans les boîtes de conserve qu'on voit, là? C'est qui, votre...
Plutôt Sarkozy. Si je peux l'avoir. Attention.
Allez, Landic.
Ah, putain de merde.
Ah oui.
Et voilà. Cette gueule.
Un dernier, bon, comme d'habitude, on va se filer un coup à boire.
Si nous sommes passés sur le stand de la joyeuse coopérative audiovisuelle des Mutins de Pangée à la fête de l'Humanité, autant vous l'avouer tout de suite, c'est parce que ce sont des amis de Comme un bruit qui court qui ont produit et réalisé les documentaires de Daniel Mermet ou participé au Merci Patron de François Ruffin. Mais c'est surtout parce que le réalisateur Olivier Azam avait rameuté sur leur stand quelques-uns des personnages de son nouveau film Rentre dedans, une belle fable intitulée La cigale, le corbeau et les poulets. C'est l'histoire d'un petit village de l'Hérault, Saint-Ponce de Tomière, où une bande de villageois au gabarit plutôt Obélix qu'Astérix résistent. Ils appliquaient la démocratie à la lettre, vivent et agissent en citoyens républicains, participant sur tous les fronts, du local au global, véritables empêcheurs de tourner en rond. Et c'est pas coup de tweets et de tags qu'ils se manifestent, mais en occupant le rond-point, en envoyant des lettres timbrées à tous les responsables de projets idiots ou de vraies injustices. Un film qui sera pour beaucoup d'élus une occasion de mettre des voix et des visages sur quelques-uns de leurs plus fidèles correspondants qui les envoient des lettres de mise en demeure. Parce qu'à leur manière, ces drôles de zouaves ont très bien compris que la démocratie, c'est pas comme les piles, elle ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Alors puisque nous sommes encore pour quelques jours en été, rencontre avec des cigales qui se préparent à chanter tout l'automne.
En France, avec tout ce qui se passe, hein, depuis avec ce gouvernement, j'ai dit, moi, je fais des provisions, s'il faut tenir un siège, je le tiens, j'ai les cartouches, j'ai à manger, je peux défendre ma position, j'ai dit.
Ça va ?
Olivier Azam, séquence copinage sur le stand des Mutins de Pangée et avec un nouveau film.
Ouais, ça s'appelle La Cigale, Le Corbeau et les Poulets.
Et c'est un documentaire au long cours, pendant 5 ans de tournage.
6 ans même.
Avec le portrait d'une drôle de bande d'olibrius révoltés et qui foutent la zone dans leur région.
T'en as un juste là, je peux pas parler parce qu'en sa présence, je voudrais pas dire de choses désagréables. Je te présente Jeannot, le Suisse. Un mec qui a été quand même arrêté pour terrorisme. Il est fiché S, et c'est pas une blague, poursuivi pendant des mois par toutes les polices de France, tous ceux qui sont habituellement sur les gros coups. Bah, ils étaient sur ce mec-là, qu'on peut voir avec les cheveux blancs et longs.
La crinière.
On l'appelle aussi le renard argenté.
C'est mon nom de code, le renard argenté. Non, c'est vrai.
Et il sort son canif.
Alors qu'il y a une sécurité quand même incroyable. Et lui, il arrive avec des canifs. Et
avec tout. Le badge de la Fédération du Tarn. Et le film, ça raconte comment vous êtes retrouvé avec toutes les polices de France sur le dos.
C'est 2009, donc il y a eu l'affaire Tarnac quand même. Et c'était la parano d'après l'affaire Tarnac.
La cellule 34, alias les 1000 combattants, menaces de mort, courriers anonymes et munitions à l'appui, une dizaine de personnalités UMP, le président Nicolas Sarkozy et sa famille.
Ce sont des personnes d'extrême gauche, membres de cercles de rencontres, qui sont interpellés.
Cambadélis, il va être content celui-là aussi. Je dis que les socialistes, c'est une bande de couillons. Valls, c'est pour lui dire que c'est pareil, c'est un couillon.
Cette affaire, devenue une priorité pour l'Élysée, aura mobilisé l'élite de la police pendant plusieurs mois.
Pourquoi vous m'avez capturé, menotté dans mon lit, etc. Pourquoi ?
Monsieur Blondeau, vous avez quelque chose à dire ? Est-ce que c'est vous, le corbeau ?
Et comme vous faisiez partie d'un groupe de militants...
Des gentils garçons de gauche, il y avait des altermondialistes, des libertaires, du Beauvais, il y avait de tout. Et comme on avait un enculé de maire, là, c'est lui qui nous a balancé. Et
le maire vous a balancé. Oui, oui, c'est sûrement eux, les terroristes, qui ont envoyé des menaces de mort.
Voilà. Il a fait arrêter même, pas que des gauchistes, même des mecs de droite, tous les autres.
Le dentiste,
ouais,
le notaire,
le patron de supermarché,
architecte,
le mec qui nous avait vendu un ordinateur avec son fils, la fête au village.
Ouais, la fête au village, avec le président du Secours Populaire.
Ah ouais, non, si.
Le plombier, l'ancien ouvrier. Ouais, enfin,
tous ont été arrêtés, tous ont été placés en garde à vue.
Garde à vue, terrorisme, c'est-à-dire que c'est 3 jours. Hein.
Ça pourrait être 96 heures. Ouais.
Tout avait commencé par une belle journée d'été.
À part le 11 août, j'étais là, un après-midi comme ça, là, il y avait 4 ou 5 minimum. Ils me montrent leur carte de police, c'était tous des flics, quoi.
On m'a dit, vous savez pourquoi on est là ? Je dis, oui, je pense que c'est pour le corbeau.
Je vais leur ouvrir la porte, hein, de suite, plaf, vous êtes en garde à vue pour terrorisme. Et...
On vient faire une perquisition.
Ils nous font tout plein de ronds-points, là où il n'y en a pas besoin. C'est pour emmerder le peuple. Ils nous font souffler dans le ballon, comme si on était tous des pochetrons. C'est pour emmerder le peuple. Et quand on sait que tout ça, c'est qu'une histoire de quota. C'est pour emmerder le peuple et ramasser du pognon.
Et donc après avoir été très terroriste, maintenant ça va être la gloire avec la sortie du film en janvier prochain.
Oh ben, ne crois pas, il peut y avoir un deuxième parce qu'on est encore sur des combats, les gaz de schiste, les éoliennes, Notre-Dame-des-Landes aussi, on y est allé là-bas aussi.
Oui, ils mettent des ZAD partout, leur slogan c'est ZAD partout.
On est de partout. C'est grandiose.
Enfin, okay. En résumé, si tu veux, c'est quand même des empêcheurs de tourner en rond, pour pas dire des emmerdeurs.
Tous les mauvais coups, on y est, si vous y allez.
Et c'est des mecs assez louches quand même, hein, je veux dire.
Mais à bien y réfléchir, les copains de la Cigale ont bien compris que leurs actions seraient plus efficaces s'ils arrivaient à avoir des élus dans les conseils municipaux.
Non mais nous on y va, mais je dis, pour l'instant on n'a pas de liste complète, on verra bien sûr.
Mais sûr que t'as pas de liste complète avec la ligne qu'on a, on est les seuls à défendre la grève générale dans le village. Attends, Pierrot, attends, les mecs...
On est même le seul à vouloir faire une manifestation la semaine prochaine, le 10, hein.
Avec moi.
Bah oui, toi bien sûr.
Avec Chantal.
Bah oui. Oh, on est 4, c'est bien.
Eh ben oui, on est 4.
Non mais il y a Jean-Mi, on verra... on ne peut pas se permettre de ne pas y aller, les gens ne comprendraient pas. Ah, bien bon. Sûr qu'on ira.
Mais d'accord.
On est toujours dans les allées de la fête de l'Humain avec Olivier Azam, le réalisateur de ce documentaire. Un des conjurés est impossible à joindre. Voilà le message de sa boîte vocale. Et on est à la recherche de la tête pensante de cette cellule 34, de ces dangereux terroristes fichés S.
Voilà, c'est ça, c'est Pierre Blondeau, enfin Pierre B, on devrait l'appeler, le buraliste, ancien militaire, qui a quand même une particularité, c'est qu'en plus il est communiste, ce qui quand même, ça aggrave son cas, et écrivain public pour les gens du coin, il fait du social, mais en même temps, il fait aussi des lettres de dénonciation, parce qu'il publie une gazette, et il écrit beaucoup aux élus. Parce que quand il écrit sa gazette, qui est très bien écrit, c'est une sorte de canard enchaîné local, mais vraiment bien torché en plus, à chaque fois qu'il envoie ça, il envoie en copie, avec une lettre et tout, à tous les ministres qui sont concernés, au préfet, à la gendarmerie, etc.
Il suit la voie hiérarchique, quoi.
Voilà, il suit la voie hiérarchique, parce que comme c'est un militaire, en fait, il a gardé ce réflexe-là. Et donc, son courrier est très, très lu, et ça a souvent de l'impact. Il arrive quand même à faire changer des trucs. Ils ont fait tomber, il y a 10 ans, le plus grand projet de décharge dans la région de l'Hérault. Il devait y avoir un projet totalement fou de décharge avec des déchets ultimes et tout. Ils ont dénoncé le truc. Ça a été leur première grande victoire. Et ça, c'est resté dans leur tête parce que cette victoire-là, ils l'ont, quoi. Et donc, du coup, ça leur a permis de tenir pendant des années jusqu'à l'affaire du Corbeau qui a été quand même l'apogée. Parce que ça a été quand même un truc qui a marqué le village. Et depuis cette histoire-là, quand même, moi, je trouve qu'ils ont pris de la force encore. Ça les a renforcés. C'est ça qui est marrant, quand même. Ça, on voit dans le film, je ne dévoile pas tout, mais ils se présentent au municipal. Ça. C'est des gars qui sont sur tous les fronts, mais c'est... Ouais, ils participent. On les voit dans le film avec le sous-préfet. Ils interpellent le sous-préfet. Le préfet, mais très poliment, très gentiment, il lui explique le problème. Le préfet les connaît, il les voit, il a l'habitude de les voir.
Il dit qu'il a beaucoup de courriers de leur part.
Il les emmerde un peu, ils empêchent de tourner en rond, quoi.
Et c'est là où la fable, qui a un peu des airs de pied nickelé parfois, devient une leçon, et nous fait réfléchir.
Oui, bah, c'est ça, le but du film. Le film est rigolo, évidemment, les gens se marrent. Mais en même temps, nous, ce qu'on voulait montrer, c'était au-delà du truc rigolo, c'est que bah, c'est un modèle vraiment exemplaire de comment on peut lutter localement avec des gens très différents qui ne vont pas forcément s'entendre et tout, mais qui, là, vont s'entendre sur un truc, et puis dans une ambiance qui est tellement marrante, en fait, que tout le monde a envie d'être là, parce que c'est ça la clé, quoi. C'est que pour militer, pour agir, il faut quand même que ce soit rigolo, parce que si c'est chiant, personne n'a envie d'y aller, quoi. Il faut que ce soit joyeux, et eux, ils sont joyeux, quoi.
Ce soir, donc, c'est le 4e anniversaire, pour ceux qui seraient échappés, de l'histoire du Corbeau. On est relativement nombreux, d'autres camarades doivent passer. À la sociale.
Je vois quand même.
Mais... Au drapeau rouge. Ça te dérangerait de se lever ton verre au drapeau rouge, toi?
Chasseur de corbeaux, bande de flics parigots, ici on cultive des idées.
Résultat, c'est devenu des stars à l'échelle locale, après ces perquisitions, ces arrestations.
Et du coup, tout le monde les connaît, ce qui fait qu'ils font des manifs. Personne n'ose trop interdire les manifs qu'ils font sur le rond-point du village. Et par exemple, la dernière fois qu'on y allait, ils avaient mis une grande banderole, grève générale, sur le rond-point, quoi. Ils ont décidé, par exemple, que pour protester contre 3 mairies qui ne voulaient pas du tout discuter des éoliennes, les élus ne voulaient pas du tout parler à la population, ils ont décidé qu'ils allaient murer les mairies. Donc ils ont discuté juste de la qualité du ciment, c'est-à-dire que est-ce qu'on prend un ciment à prise rapide ou est-ce qu'on leur donne une possibilité de pouvoir démonter le mur quand même après. Comme c'est des gens assez modérés, ils ont choisi quand même l'option, le mur démontable. Mais ils ont quand même muré de façon très efficace 3 mairies. Ils n'ont rien cassé, rien dégradé. Ils ont aussi planté pendant Nuit Debout des légumes dans le village, dans les bacs à...
Dans les bacs de fleurs du rond-point.
Ouais, partout. Ils ont planté des légumes pour que les gens se servent. Voilà, c'est leur façon de faire, quoi. C'est... Tu vois, c'est toujours joyeux, et c'est rigolo, et en même temps, ils font, c'est une vraie action quoi, à chaque fois. Ça peut être l'arrêt de bus, ça peut être le trottoir qui dépasse, ça peut être la gouttière qui est pas machin, ça peut être le...
Tu vois là, regarde.
L'affaire qui le préoccupe concerne l'abribus qui surplombe la gendarmerie.
Ah, regarde dans l'état que c'est.
Il y aura un article dans la commune.
Ça sert la pisse et tout ce que tu veux, regarde.
Le Suisse rapporte la preuve par l'image.
Ça va, bonjour.
Et puis du social, parce que ça c'est une partie quand même qui m'a impressionné. C'est le boulot social qu'ils font.
La Cigale, c'est pas seulement une librairie et un tabac, c'est aussi le siège du Secours Populaire. Pierre Blondeau y fait fonction d'écrivain public et de porte-voix des pauvres et des sans-grades.
Quel est ton problème? Mon problème, c'est que j'ai acheté un véhicule, un Mazamé, une Dacia Sandero Prestige, 8000 euros, et je l'ai vendu 7000 euros à quelqu'un, le beau-frère, à mon cousin de la Bastide.
Alors, attends, 8000 euros à ton cousin, d'accord, bon, c'est à la famille, ouais.
Après, mon casier judiciaire, il est vierge.
Bon, et... c'est à peu près clair.
Bon, ça va, c'est à peu près clair pour Pierre, qui est plus à l'aise dans l'assistance sociale que dans la vente de tabac. Voilà. Mais déjà, s'ouvre notre front.
Et là, je viens d'apprendre, et ça, je ne savais pas, qu'il y avait une cave, qu'ils avaient ouvert une cave secrète, hein, je ne peux pas dire où, dans laquelle ils planquent de temps en temps des réfugiés, des fois.
Là, en plus d'être fichés S pour terrorisme, maintenant, ils vont être dans les réseaux des passeurs de migrants clandestins.
Des coups de main, c'est pas forcément des trucs comme ça, mais ça peut être des fois des gens qui sont à la rue, tu vois, qui sont de passage, et ils vont leur trouver un plan pour une nuit, pour ou leur filer. Ils vont leur filer à bouffer. Enfin, ils se démerdent, quoi. C'est des gens qui sont dans la. Ils appliquent la solidarité. Tu vois, Pierre, ce que tu vas voir, c'est un républicain. Vraiment. C'est liberté, égalité, fraternité. Mais c'est eux, ils le font vraiment, quoi. C'est pas un slogan qui est marqué sur la mairie. Ils le font, quoi.
Là, on les cherche où maintenant, alors?
Voilà. Là, ils sont planqués au pays de Jaurès, tu vois. C'est le gros stand du Tarn. Donc là, ils se sont branchés avec leurs copains communistes du Tarn. Et le Suisse, par exemple, tu vois, il fait le service. Enfin bon, il participe et tous les ans, il vient à la fête de l'UMA. Et là, Pierre Blondeau, ce qui est assez incroyable, c'est la première fois qu'il vient à la fête de l'UMA.
Il n'est jamais venu ?
Ouais, parce qu'avec son tabac, il est quand même vachement pris et tout, tu vois. Et là, c'est vraiment parce qu'il y a le film qu'on a réussi à le convaincre de venir. Il est super content d'être venu. Ah mais tiens, le voilà. Tiens, ils sont là. Ils sont
très... Ah, voilà.
Je cherchais à taper, tu ne me répondais pas.
Bonjour. Mais vous êtes en train de casser la croûte, là, déjà ?
Cassoulet, ouais.
Installez-vous, on va continuer pendant que vous mangez, non ?
Non, c'est pas grave, t'inquiète pas.
Bon, Pierre, je reviens à cette histoire de fichier S, parce que maintenant, les fichiers S, il y a plein de politiciens qui en parlent, tout le monde parle de la fiche S en disant « Ceux qui ont une fiche S, il faut les enfermer par principe, etc. »
Oui, bien sûr.
Parce que ça risque pas de se retourner contre vous, du coup, le sort qu'on réserve aux djihadistes.
Ah bah bien sûr.
Est-ce que vous ne risquez pas d'être embarqué,
ah,
vous
bien
aussi ?
Bien sûr, parce que on sait tous les fichiers S.
Et vous l'avez toujours, votre fiche?
Ah bah bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai les renseignements généraux, pareil, j'ai des relations très courtoises. Les renseignements généraux, mais ils m'appellent deux fois par semaine depuis 7 ans.
Ah bon?
Ben oui, ils m'ont dit, oh, ça va, est-ce qu'il y a, par exemple, vous faites une manif? Oui, on va faire une manif. Enfin, tout ce qui est écrit, qu'on diffuse, je lui divulgue. Il y a d'autres choses que je ne divulgue pas. Ou après, mais bon, je veux dire, oui, bien sûr, on risque un jour d'avoir tous les fichiers. C'est pour ça, c'est une connerie de tous ces politiques, là... Alors apparemment, il y aurait quatre stades, hein, je crois, que j'ai su dernièrement par un mec des RG, juste.
Et vous êtes stade rouge?
Ah, je sais pas. On passe pour un peu des furieux, moi en particulier, mais on passe surtout pour des gens crédibles et honnêtes, et aussi des intéressés, quoi. Enfin, je parle vis-à-vis de la majorité de la population, hein,
ouais.
De Saint-Ponesse. Même à 15, on se fait notre petit truc, on distribue des tracts et dans la joie et la bonne humeur.
Bon, il vous laisse aller casser la côte parce que le cassoulet va refroidir. Merci
beaucoup. Jean-Marc Hérault.
Pourquoi ?
C'est pour l'aéroport. Luc Châtel.
Idem. Tu sais qu'il ne veut pas nous recevoir, là ? On va y aller de force. Ah oui, je l'ai dit, ça.
Barthelon, pour lui dire que c'est inadmissible. Le Drian, pour lui dire que c'est pas la peine de faire du cinéma comme ça.
Et on peut le voir quand, ce film, Olivier Azam ?
Le film, il sort en janvier. Là, il est au Festival de Groland, on est très fiers.
22 septembre à Toulouse.
Voilà, à Toulouse. J'ai peur que Groland, ils embauchent toute la bande, là, parce qu'ils sont, très grolandais.
Ils nous embauchent parce qu'ils sont ingérables, les mecs. Alors, c'est pas...
Et puis après, ils avant première le 11 novembre au Métallo à Paris. Et puis après, ça sort en janvier.
La Cigale ira chanter là où la révolution l'appelle.
Comme un bruit qui court, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve samedi prochain à 16h. Bon week-end à tous.